Chapitre 18. Dans le champ des astéroïdes. Semaine après semaine, suivant son orbite comme un train suit les rails, Explorateur 1 s'éloignait de la Terre en direction de Jupiter. À la différence des navires qui cinglaient sur les mers terrestres, il n'avait pas besoin de la plus infime modification de cap. Son trajet avait été fixé en fonction des lois de la gravitation universelle et il ne risquait pas de rencontrer de tourbillons ni de récifs. Il n'existait pas non plus le plus petit risque de collision avec un autre vaisseau, car il ne s'en trouvait aucun, du moins aucun du fait de la main de l'homme, entre lui et les plus lointaines étoiles. Pourtant, l'espace dans lequel il pénétrait maintenant était loin d'être vide. Le No Man's Land qu'il s'apprêtait à franchir était sillonné des orbites de plus d'un million d'astéroïdes, dont 10 000 seulement étaient connus des astronomes terrestres. 4 de ces astéroïdes avaient plus de 100 000 de diamètre. La majorité d'entre eux n'étaient que des rocs géants éternellement dans le vide. Il n'existait pas de défense contre eux. Le plus minuscule pouvait détruire totalement le vaisseau en le heurtant à une vitesse de quelques dizaines de milliers de milles à l'heure, mais le risque était négligeable. Il existait en moyenne un seul astéroïde par million de milles cubiques. Le fait que l'astronef pût occuper le même emplacement au même moment était si improbable qu'il n'effleurait même pas les préoccupations de Poole et Bowman. Au jour 86, ils étaient censés s'approcher à une distance minimale d'un astéroïde qui n'avait pas de nom, mais seulement un chiffre, 7794. Ce n'était qu'un rocher de 100 mètres de diamètre qui avait été détecté une seule fois en 1997 par l'observatoire lunaire et dont seuls les minutieux ordinateurs se souvenaient. Lorsque Bowman prit son car, Carl lui rappela immédiatement cette rencontre, bien qu'il fût improbable qu'il l'eût oubliée, puisqu'il s'agissait du seul événement marquant prévu durant tout le voyage. Le déplacement de l'astéroïde sur le fond stellaire, ainsi que ses coordonnées d'approche, avaient déjà été projetées sur les écrans. Figurait également la liste des observations à faire ou à tenter. Les tâches ne manqueraient guère jusqu'à ce que 7794 passe à moins de 900 000 d'Explorateur 1, à une vitesse proche de 80 000 milles à l'heure. Bowman demanda la vision télescopique à Carl et il vit apparaître une pâle étoile. Rien qui pût indiquer qu'il s'agissait d'un astéroïde. L'image, même grossie au maximum, ne révélait qu'un point de lumière.
« Réticule de visée ?» demanda Bowman.
Immédiatement, 4 lignes apparurent autour de la minuscule étoile. Bowman resta en contemplation durant plusieurs minutes, se demandant si Carl avait pu commettre une erreur. Puis il s'aperçut que l'étoile se déplaçait selon un mouvement presque imperceptible. Elle pouvait se trouver encore à plus d'un million de milles, mais le fait qu'il pût la voir bouger prouvait qu'elle était très proche, à l'échelle stellaire. Lorsque Poole le rejoignit sur la passerelle 6 heures plus tard, 7794 était des centaines de fois plus brillant et il se déplaçait si rapidement qu'il ne pouvait plus subsister le moindre doute quant à son identité. De plus, il n'apparaissait plus comme un simple point de lumière, mais sous l'aspect d'un petit disque pâle. Ils contemplèrent ce caillou voyageant dans le ciel avec l'émotion qu'avaient dû éprouver les marins observant au cours d'un long voyage une côte qu'ils ne pouvaient aborder. Il savait que 7794 n'était qu'un fragment de roc dépourvu d'air et de vie, mais cela n'affectait en rien leurs sentiments. C'était la seule matière solide qu'ils rencontreraient avant d'atteindre Jupiter à 200 millions de milles de là. Le télescope ultra-puissant leur révéla la forme irrégulière de 7794 qui tournait lentement sur lui-même. Il apparaissait parfois comme une sphère aplatie, parfois comme une sorte de coque grossière. Sa période de rotation n'était que de 2 minutes. Des zones d'ombre et de lumière oscillaient sa surface, apparemment distribuées au hasard, et scintillant au rythme des cristaux qui présentaient tour à tour leurs facettes au soleil. L'astéroïde voyageait à près de 30 000 par seconde, et il ne disposait que de quelques minutes pour l'observer de près. Les appareils automatiques prirent des dizaines de clichés et les échoradars furent soigneusement enregistrés en vue d'analyses futures. Et il ne leur resta plus que le temps nécessaire à un seul sondage direct. La sonde n'emportait aucun instrument, car aucun n'aurait pu résister à une telle collision. il s'agissait simplement de lancer un projectile de métal destiné à heurter l'astéroïde dans sa course. Quelques secondes avant l'impact, Poole et Bowman se tinrent prêts, attentifs, tendus. Cette expérience, bien que simpliste, permettrait de vérifier la précision de leurs équipements. Ils avaient en fait visé une cible de quelques dizaines de mètres qui se trouvait à des milliers de kilomètres. Sur la région obscure de l'astéroïde, il y eut soudain une éblouissante explosion de lumière. Le petit projectile métallique était arrivé à la vitesse d'une météorite et en une fraction de seconde, toute son énergie s'était transformée en chaleur. Un jet de gaz incandescent apparut brièvement dans l'espace et à bord de l'astronef, les instruments enregistrèrent le spectre tôt évanoui que des experts analyseraient sur Terre, lisant à livre ouvert dans l'embrasement des atomes. Ainsi, pour la première fois, on connaîtrait la composition de la croûte d'un astéroïde. En une heure, 7794 redevint une étoile. Lorsque Bowman prit son quart, il avait totalement disparu. Ils étaient de nouveau seuls, et il leur resterait jusqu'à ce qu'apparaissent les satellites extérieurs de Jupiter. Mais ce ne serait pas avant 3 mois.